les spécialistes de la préhistoire, parmi lesquels votre arrière-grand-père, d'ailleurs, qui s'appelait Édouard Piette, ont exploré les grottes préhistoriques. Ils ont analysé les peintures qu'ils y ont découvertes, leur gamme chromatique, les pigments utilisés. Quels étaient ces pigments? Pour quelles couleurs? Comment peut-on se rendre compte de l'ambiance chromatique à la préhistoire?
D'abord, quelles couleurs, effectivement, parce que ce sont très très bien conservés dans l'obscurité, dans les fonds des cavernes. Oui, manifestement, ils choisissaient des fonds de cavernes qui n'étaient pas humides. C'est incroyable que 40 000 ans plus tard, et peut-être certainement davantage, on en découvrira d'autres, on retrouve des couleurs aussi saturées, aussi conservées comme elles étaient certainement à l'époque. Alors, ces couleurs-là étaient principalement de la terre calcinée, donc avec différents niveaux de ocre, de l'ocre clair à l'ocre rouge, et ils avaient développé des fours et ils transportaient avec eux des réserves de cette terre pour obtenir les différentes couleurs qu'ils souhaitaient. Par ailleurs, ils utilisaient la craie ou le charbon de bois pour dessiner. C'était des couleurs qui étaient naturelles. On sait qu'on a retrouvé ces couleurs un peu partout sur la planète parce qu'on a découvert à peu près les mêmes dessins avec les mêmes couleurs aussi bien en Indonésie qu'en France ou qu'en Europe. Et c'était des couleurs que j'interprète comme une symbolique. C'est fondamental de chercher quelle est la signification à l'époque magique, religieuse. Bon, on peut imaginer, je n'y étais pas, vous non plus, on peut imaginer que pour eux, la terre qu'ils utilisaient pour obtenir ces coloris avait une valeur symbolique qui était celle de la terre mère, productrice des animaux, de la vie, des végétaux, d'eux-mêmes. D'autre part, ils utilisaient le souffle pour souffler à travers un petit tube la couleur et la mélanger avec la salive. Tout ça, ça renvoie à l'idée qu'ils imposaient leurs mains sur la paroi, ce que j'appellerais la membrane utérine de la terre mère au fond des cavernes. Il n'y avait pas de lumière naturelle, ils arrivaient là au fond dans des cavernes éventuellement dangereuses et incertaines avec des torches, ils travaillaient dans des conditions très difficiles, donc leur choix était évidemment très, très exigeant. Très précis, et je pense qu'il rendait un culte, une célébration avec l'imposition des mains et le dessin des animaux qu'il chassait à la terre-mère. Donc on peut interpréter à travers ces couleurs le lieu, l'écosystème, si vous voulez, de ces rituels, une religion de l'époque de la terre-mère.
Alors bien plus tard, les Grecs vont s'interroger sur l'origine des couleurs. Pour Aristote, elles sont des accidents de la lumière. Platon, lui, les rattache plutôt aux objets. Les Grecs ont un véritable code couleur.
Oui et non, parce qu'au fond, quand on lit Homère, il n'y a pas de couleur si ce n'est que la couleur de la mer ou la couleur de la terre, la couleur, autrement dit, des objets. Mmh. Il y a très peu de vocabulaire des couleurs en grec ancien, au point que l'illustre premier ministre anglais Gladstone pensait que les Grecs étaient aveugles aux couleurs, comme on dit que les chevaux ne voient pas les couleurs. Ça a été tout un débat théorique au 19e siècle sur le fait que les Grecs ne voyaient pas les couleurs, ce qui est assez bizarre. Bon, c'est difficile d'interpréter les couleurs en réalité d'une façon historique et sociologique. Les couleurs étaient liées à des éléments naturels et avaient des codes symboliques qui étaient ceux de la mythologie grecque, des dieux de l'Olympe. Alors on retrouve finalement avec l'évolution, plus récemment que le 5e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve des codes qui se sont précisés et qui se sont tout à fait précisés dans l'Empire romain.
Alors chez les Romains, effectivement, la formation de l'univers, il la relie très très fort aux couleurs.
Oui, et curieusement, ça devient une symbolique mythologique, mais qui devient rapidement une symbolique sociale, qui est liée donc au pouvoir, à la hiérarchie des couleurs qui sont réservées à l'empereur, comme le pourpre, et aussi les riches commerçants romains qui inventent les fausses couleurs, les couleurs imitées. Et là, on se rend compte qu'on passe à un capitalisme romain, je peux dire, et à un désir d'ascension, un peu comme le bourgeois gentilhomme se paraît de ruban d'aristocrate. Les gens qui n'ont pas de pouvoir politique important, mais un pouvoir financier, commercial important, imitent les couleurs, y compris la pourpre. Les empereurs doivent à répétition émettre des interdictions d'utiliser la couleur qui leur est réservée.
L'année 476 marque le point final à la chute de l'Empire romain d'Occident qui tombe aux mains de ceux que l'on appelle les barbares, hein, les Huns, les Huns, les Visigoths, ouais, les Vandales. Commence alors le Moyen-Âge. L'influence de la chrétienté sur l'usage et la symbolique des couleurs est considérable, hein, au cours de la chrétienté. C'est très divin, le sens que l'on donne aux couleurs.
Ah, ça devient un code théologique. En réalité, quand l'Empire romain se désagrège, il y a les couleurs traditionnelles de l'Empire romain, de la mythologie, il y a les couleurs chrétiennes qui apparaissent avec Constantin quand il se convertit, et il y a les couleurs du culte de Myrta. On est dans un grand désordre des couleurs, qui est remarquable parce qu'il coïncide avec ce qu'on a appelé la décadence de l'Empire romain. Mais les Germains arrivent effectivement avec des couleurs barbares, mais ça, tout ça se mêle. Il ne faut pas penser non plus que les barbares et les Romains ne se sont pas mêlés. Ce sont des turbulences qui ont duré longtemps. Mais les Celtes aussi arrivent avec d'autres couleurs. L'Empire romain s'élargit de toutes les couleurs des pays qui viennent de l'extérieur et qui conquièrent cet empire qui se défait. Alors on a effectivement ce mélange est tout à fait difficile à analyser, mais par rapport à ça, on revient à la question de la couleur qui est la lumière. Mmh. Vous citiez Aristote. Pour Aristote, les couleurs, ce sont des défauts, des ombres de la lumière. Et en fait, quand on parle de la toute origine, la Bible, il n'y a pas de couleur dans la Bible. Il n'y a que la lumière qui est Dieu, et Dieu sépare le chaos de l'ordre, sépare la lumière de l'ombre. Et on retrouve cette symbolique au point que les intégristes chrétiens de l'époque, Saint Bernard et d'autres, ne veulent pas qu'on fasse des vitraux avec des couleurs vives, saturées, parce que ça se rapproche de l'ombre. Les couleurs sont des ombres, donc le péché. Et la couleur de Dieu doit être pure. Alors on doit avoir un blanc lumineux et encore mieux, de l'or.
Ouais. Un système de couleurs donc, qui relie au Moyen-Âge la chrétienté à Dieu, et puis aussi un système qui exprime des valeurs chevaleresques.
Oui, l'aristocratie, bien sûr, les couleurs des blasons, l'héraldique, c'est à nouveau, alors c'est un code purement social. Quand je dis purement, je me trompe, c'est un code social complètement lié au code théologique de la chrétienté, parce que ce sont des vertus que les aristocrates veulent afficher sur leurs blasons, sur les couleurs de leurs vêtements, de leurs laquais, et donc ce sont des couleurs nobles dans le sens moral. Elles ne sont jamais en désaccord avec les couleurs chrétiennes. Il y a un accord socio-religieux, socio-théologique qui se construit là et qui est extrêmement rigoureux, effectivement, parce que ce sont des couleurs qui deviennent identitaires d'un prince, d'un roi, d'un baron, des soldats de ce prince, de ce baron. Là, on a un usage social hiérarchique.
Et avec la Renaissance italienne, nous allons le voir avec vous, Hervé Fichard, nous allons passer du symbolisme au réalisme des couleurs.
Cette couleur a beaucoup de sens, beaucoup de charge émotionnelle. Elle recèle une pulsation vitale, par exemple. Elle est le signe de la pulsation sanguine. Il y a une pulsation lumineuse qui est virtuelle parce que, dans cette couleur. Parce qu'il y a, par exemple, alors ça plastiquement, c'est une chose qu'on peut ne pas savoir, mais il y a un grand registre de valeurs dans la couleur rouge. C'est presque comme un noir. À la nuit tombée, d'ailleurs, peu à peu, quand ça s'enfonce dans la nuit, le rouge devient un noir, et on peut le travailler comme un noir, voyez.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
13h15, 14h30.
Voilà le peintre Claude Garache qui témoigne ici en 1993. Alors revenons à la fin du XIVe siècle. Hervé Fichard, on assiste à un changement chromatique influencé par un changement idéologique, des idées nouvelles donc, qui émergent sur le rapport entre le divin et le monde d'ici-bas. Alors que se passe-t-il exactement? Quelles conséquences dans l'usage des couleurs?
Oui, le Vatican est face à deux grandes difficultés. Les intégristes albigeois, les cathares d'un côté, qui identifient Dieu à la lumière et qui se jettent dans le feu pour se purifier si on les persécute. Et puis les athées, c'est lié à l'émergence de l'humanisme, au retour du rationalisme, de la pensée grecque, etc. Alors l'Église lutte contre ces deux extrêmes et essaye d'humaniser la religion. Elle développe le culte du Christ, le culte de la Vierge, et elle demande aux peintres, parce que ce sont tous des peinture de commande à l'époque. Mmh. Elle demande au peintre de créer des traits plus humains pour les personnages qui étaient des icônes au Moyen-Âge. Elle demande au peintre de mettre le Christ sur terre. Et Giotto commence par exemple à utiliser des couleurs relativement pure pour créer la profondeur de l'espace dans la mesure où l'accommodation chromatique fait que le rouge rapproche, le bleu éloigne. Ensuite, on invente la perspective, c'est-à-dire que Dieu devient le point de fuite d'un espace géométrique où les couleurs sont rompues. Car si on met des couleurs pures dans cet espace géométrique, on tue la géométrie, on tue la profondeur de l'espace. Et puis les couleurs réelles des gens, des objets, sont naturellement rompues. Donc il y a un réalisme des couleurs qui se développe, qui s'éloigne des couleurs saturées, pures, on va dire primitives, premières du Moyen-Âge. La couleur devient grise et progressivement elle va même se bitumer. Quand on va arriver même à des gens comme Poussin qui disent que le dessin c'est beaucoup plus important que la couleur et qu'on colorie les formes.
On va inventer aussi ce que vous appelez, Hervé Fischer, la couleur locale. Qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, mais c'est la couleur réelle, c'est la couleur réaliste, ce n'est plus la couleur qui a une valeur théologique pour envoyer à Dieu, pour dire que Dieu est dans sa gloire, ou que la Vierge, la rédemption, ou tout le narratif de la Bible. Et à ce moment-là, on met les hommes sur la terre avec donc ces couleurs locales, on introduit le réalisme des couleurs, qui est une exception dans l'histoire de la peinture. Et l'histoire de la couleur. C'est vraiment une invention de la Renaissance qui ne va pas durer très longtemps.
Et Léonard de Vinci, lui, préconise de réduire la gamme chromatique.
Oui, sauf qu'il garde des valeurs religieuses. Par exemple, il invente que l'épaisseur de l'air fait que les lointains des paysages doivent être bleutés. Mais ce bleu, il garde encore une mémoire théologique du ciel, de Dieu. Donc on est dans une période de transition où c'est intéressant pour le sociologue parce qu'il y a des contradictions. Il y a au même moment des mémoires des codes précédents et puis des inventions d'usages chromatiques nouveaux.
Alors le XVIIe siècle, celui de Louis XIV, va marquer une étape importante dans l'utilisation de la couleur, une couleur qui se met véritablement au service de la monarchie absolue.
Oui, c'est incroyable, c'est une affaire de fou. En fait, Louis XIV veut asservir tous les princes, les ducs, félons qui ne veulent pas admettre le pouvoir universel du roi soleil, rien que ça. Bon. Ouais. Et donc, il a le stratagème de les inviter à la cour, de développer une vie de cour et de les loger à Versailles et de leur imposer par son propre exemple des dépenses somptuaires de vêtements extrêmes. Et rapidement, ces riches aristocrates n'ont plus les moyens de payer leurs tailleurs. À ce moment-là, le roi leur offre une pension. Et donc, il les asservit financièrement, il les soumet comme cela. Alors, d'une part, il règne par la splendeur des couleurs qu'il incarne, et les parties latérales des tableaux qui sont dans couleurs rompues, parce que lui brille comme le soleil, mmh. Et il arrive par il exerce le pouvoir par les couleurs des rubans, des vêtements, et il ruine ceux qui voudraient lui résister.
Le XVIIe siècle, c'est aussi le siècle qui invente le clair-obscur.
Oui, c'est une affaire bizarre ça, le clair-obscur. C'est un mélange de la notion de baroque et c'est aussi l'intégrisme religieux espagnol. On retrouve l'opposition de la lumière divine et de l'ombre. Là aussi, on retrouve une mémoire d'une interprétation d'un usage de la couleur précédent. Et aussi, on s'en va vers la réduction de la couleur qui va être l'opposition aux couleurs somptuaires de l'aristocratie. Par la réforme. Donc on va s'en aller aussi, cette fois-ci, on va retourner à des couleurs sombres, à des clairs obscurs, et on va aller vers même les bitumes.
Ouais, on évoquera dans quelques secondes le rôle de la réforme, mais un mot encore de Louis XIV, qui est un roi qui a beaucoup fait la guerre, des guerres qui ont coûté extrêmement cher au royaume de France. La guerre, écrivez-vous dans votre ouvrage Hervé Fischer, est le grand spectacle du roi qu'il est seul à mettre en scène, et là aussi, il utilise la couleur.
Oui, les aristocrates avaient des uniformes parce que c'était les aristocrates qui payaient la guerre pour Louis XIV. Donc il y avait les régiments du duc untel, du prince untel. Et en même temps, ces armées-là pouvaient se retourner contre Louis XIV. Donc Louis XIV décide d'uniformiser les couleurs toujours très, très somptuaires. Et ça, c'est des batailles de soldats de plomb à l'époque, parce que les rois de l'Europe ont les mêmes régiments avec les bannières et les couleurs des uniformes qui sont comme des cibles pour tirer les mousquetons. Mais donc, en uniformisant les couleurs de toute cette diversité de baronnies, il tient à exercer son pouvoir d'uniformisation, de centralisation sur la diversité qu'il y a encore en France à cette époque. Parce que finalement, avant la Révolution française, c'est bien Louis XIV qui a unifié la France.
La réforme protestante, Hervé Fichard, vous l'avez dit, va jouer un rôle dans l'utilisation des couleurs, de la gamme chromatique. De quelle manière? C'est ce que nous allons voir.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Laurent de Vossey.
Alors, la réforme protestante, pour rappel, c'est ce mouvement amorcé au XVIe siècle qui s'oppose aux abus de pouvoir et, comme vous le rappelez, Hervé Fischer, dans votre ouvrage, aux excès d'excentricité de la cour, de l'église, de l'aristocratie. Il s'agit de revenir aux sources du christianisme, à une religion de l'humilité et de l'austérité. Alors, en quoi la réforme a-t-elle joué un rôle dans le monde des couleurs?
Les couleurs étaient devenues le symbole des excès d'apparat somptuaire de la noblesse et aussi du haut clergé, car le haut clergé avait les mêmes couleurs somptuaires et excessives que l'aristocratie, c'était la même classe. Donc c'est une lutte contre de la bourgeoisie montante qui exerce les métiers du commerce, du droit, qui a les affaires, qui a de l'argent, contre l'aristocratie qui dépense, y compris pour les couleurs. Et donc, c'est une opposition politique, et c'est une opposition naturellement théologique et morale, parce que Luther, Calvin dénonce l'immoralité de cette classe qui ne travaille pas. C'est vraiment dévalorisant de travailler, tandis que les bourgeois travaillent. Donc, c'est une opposition de classe qui s'affirme par l'opposition aux couleurs somptuaires, et donc la réduction à des couleurs noires et blancs. La réforme impose le noir et le blanc, donc la couleur, et naturellement on revient à la notion de la lumière divine et de l'ombre. Bon. Mais donc c'est une bataille politique, en fait, qui se joue avec la couleur, sur le terrain de la couleur.
Réaction encore aux excès de la cour, c'est ce qu'on appelle le néoclassicisme qui s'étend sur toute l'Europe pendant plus d'un siècle. Il émerge vers 1760 dans la lignée du classicisme soutenu par la bourgeoisie montante et les philosophes des Lumières. C'est un mouvement qui, lui aussi, rejette le système des couleurs.
Oui, c'est la suite de la réforme, parce que la Révolution française, c'est la prise du pouvoir de la bourgeoisie en utilisant la pauvreté des paysans qui s'impose. Et rapidement, elle est captée par Napoléon Ier qui veut trouver un style noble et qui ne veut pas utiliser la symbolique des couleurs richissimes de l'aristocratie et qui fait référence donc aux Grecs et qui impose le noir et blanc. Mais curieusement, il n'y avait pas de toche noire dans la civilisation grecque ancienne, il y avait que le blanc. Donc ce noir et blanc, c'est encore une interprétation qui est une erreur historique d'imposer le noir et blanc à l'époque de Napoléon Ier dans les vêtements, y compris des femmes. Ce sont toujours des interprétations parce qu'il n'y a rien de physiologique ou de naturel dans les gammes de couleurs. Ce sont toujours des idéologies sociales. Les systèmes de couleurs sont des productions idéologiques.
Alors, vous évoquez, Hervé Fischer, le rôle de la bourgeoisie qui est important, avec des valeurs de puritanisme. Donc, véritablement, avec la bourgeoisie, et comme vous l'avez évoqué également chez les Romains, on catégorise les individus, les peuples et les genres aussi avec la couleur.
Oui, nous sommes au XIXe siècle pendant un siècle. Curieusement, après la Révolution française qui aurait pu bouleverser tout le système des couleurs, on a, au contraire, une sagesse, un académisme puritain. C'est un siècle qu'on peut quasiment appeler achromatique parce qu'on est dans le noir et blanc. Et si vous avez un homme d'affaires avec lequel vous envisagez un contrat qui arrive avec une redingote orange ou des chaussettes vertes, cet homme-là n'est certainement pas fiable. Vous n'allez pas signer un contrat avec lui, vous n'allez pas lui confier votre argent. Et donc, il y a une sorte de puritanisme qui s'impose dans le monde des affaires, aussi bien avec Benjamin Franklin aux États-Unis, parce qu'il faut bien voir là que la réforme s'est développée aux États-Unis aussi. Tous ces protestants ont émigré notamment aux États-Unis. Donc le capitalisme, c'est le noir et blanc. Curieusement, ça va bien changer plus tard. Ouais. C'est ce que Max Weber a appelé l'éthique protestante et le capitalisme. Donc noir et blanc pendant un siècle.
On reviendra au capitalisme tout à l'heure, mais je le disais, donc catégorisation des individus par la couleur, y compris des genres.
Oui et non. Parce que les femmes sont, bien sûr, on leur tolère un petit ruban bleu ou un petit ruban bleu. C'est des couleurs pastel. Mais les femmes se voient imposer aussi une réduction chromatique considérable. Donc, elles sont dans les nuances. Elles ont droit d'avoir un tissu, c'est surtout le pastel. Évidemment, les hommes ne vont pas, ils affirment leur virilité, donc ils ne vont pas aller dans le pastel, parce que ce sont des couleurs qui deviennent féminines. Il y a une sorte d'évolution, vous avez raison, dans les genres, dans la mesure où la virilité masculine s'affirme en noir et blanc, et chapeau haute forme, et la douceur féminine, là je parle en lieu commun, bien entendu, la douceur féminine, la tendresse, la maternité sont dans les pastels. Ouais. Mais le noir demeure une couleur très importante, et le blanc, bien entendu, pour les femmes pendant tout le siècle.
Une ferme volonté donc de la bourgeoisie de maintenir un ordre social qui s'exprime, on l'a compris, notamment par les couleurs, et cette volonté va se heurter à celle des individus qui vont imposer leur vision, leur symbolique psychologique des couleurs, et ça, Hervé Fischer, c'est tout le mouvement romantique.
Oui, il faut bien voir qu'avant la Révolution française, il y avait déjà un début de romantisme, et donc de couleurs qui renvoyaient à la nature. Bon, ça a été bloqué par la Révolution et par Napoléon Ier, mais vers 1830, il y a des turbulences, et c'est une sorte d'écho retardé des bouleversements sociaux de la Révolution française. On a la bataille des romantiques, le drame qui succède à la tragédie, Théophile Gautier qui fait la bataille dite d'Hernani, c'est-à-dire qui arrive à la première d'Hernani de Victor Hugo avec un gilet rouge sur un voyant flashant sur son costume noir et qui en fait le symbole romantique. Donc la couleur de la bannière rouge du gilet rouge de Théophile Gautier devient la bannière des romantiques.
Ouais. Et des gens comme Verlaine, Rimbaud, Baudelaire vont dérégler véritablement, dites-vous, la symbolique des couleurs.
Ce sont les écrivains aussi bien en Allemagne